À Bron, on n'attend pas d'avoir une longue barbe et de grosses lunettes pour devenir de vrais scientifiques. Vous écoutez Diffuse ta science, le podcast des apprentis chercheurs. Ici, ce sont les enfants qui réfléchissent et font des expériences.
Tada !
Oh, ben non.
Enfin, quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, on a demandé de l'aide à un vrai scientifique. Il s'appelle Pierre.
Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis médiateur scientifique et aujourd'hui, avec les enfants, on va détecter des exoplanètes.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
La nuit, quand le ciel est dégagé, c'est le meilleur moment pour observer l'univers et se rendre compte de son immensité. Ce qu'on voit, c'est une infinité de points brillants. La plupart sont des étoiles. Mais il n'y a pas que ça. En plus des étoiles, des satellites et astéroïdes en tout genre, il existe aussi d'autres planètes.
Bonjour.
Bonjour, Feuille Native.
Aujourd'hui, avec les élèves de 4e de Monsieur Boudébida du collège Mono de Bron, on va s'intéresser à ces autres planètes, qu'on appelle exoplanètes. Et on va tenter de comprendre les différentes techniques pour les observer. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une exoplanète ?
Une exoplanète, c'est quand, par exemple, les planètes, au lieu de tourner autour du Soleil, je crois, elles tournent autour d'une étoile.
Une exoplanète, c'est un astre qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil.
Littéralement, exoplanète, ça veut dire une planète extérieure au système solaire. Donc une planète qui ne tourne pas autour du Soleil, mais qui tourne autour d'une autre étoile dans l'univers.
Des étoiles et des planètes, ok. Mais pour comprendre la suite, il faut bien les distinguer.
Les planètes et les étoiles, c'est pas pareil, vu que les étoiles, c'est plus grand que c'est plus grand que des planètes.
Une étoile, ça crée de la lumière, alors qu'une planète, ça la réfléchit.
Une planète, eh bien, elle se contente de se faire éclairer par son étoile, et donc de nous renvoyer de la lumière. Mais c'est pas elle qui crée sa propre lumière.
En fait, c'est très très difficile de détecter la petite lumière d'une planète à côté de la grosse lumière de son soleil. Déjà, les étoiles sont tellement loin que l'étoile elle-même, c'est dur à voir. Alors, la petite planète qui est à côté, en gros, ça revient à se mettre à Paris, à regarder un phare à Marseille et essayer de détecter la petite lumière d'une luciole à côté de la lumière du phare qui est à Marseille. C'est quasiment impossible. Et c'est pour ça qu'on a mis très, très, très longtemps à trouver une méthode pour arriver à dire, oui, il y a bien des exoplanètes.
Voir une luciole à côté d'un phare, c'est clair que ça a l'air impossible. Mais pourtant, les scientifiques affirment que les exoplanètes existent. Alors, comment on s'y prend pour les observer ? Il existe plusieurs méthodes. Pour comprendre la première méthode, il faut d'abord expliquer une petite subtilité. L'effet Doppler.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'effet Doppler ?
Quand, par exemple, un camion y passe... Quand il passe, en fait, il s'approche de nous, on entend beaucoup. Et quand il s'éloigne, on entend un peu moins. Et c'est un peu comme ça, l'effet Doppler.
C'est-à-dire, une petite démonstration, Pierre ? Plutôt marrant. Mais est-ce qu'on parle toujours des exoplanètes ? C'est quoi le rapport dans tout ça ?
C'est quelque chose qu'on détecte à chaque fois qu'on observe un phénomène ondulatoire. Une ondulation, une onde. On est d'accord que le son, c'est une onde ?
Oui, on est d'accord. Le son, c'est une onde. Mais où est-ce que tu veux en venir, Astropierre ? Les exoplanètes n'émettent pas de son, elles.
Les exoplanètes, ça n'émet pas de son. De toute façon, on est dans l'espace, il n'y a pas de son. Mais ça émet peut-être un autre truc qui est aussi ondulatoire.
Et la lumière aussi qui
c'est
fait
la lumière. La lumière, c'est une onde aussi.
Ok, je crois que je commence à comprendre. Si la lumière est une onde, comme le son, grâce à l'effet Doppler, on peut observer ses variations de couleur. Et justement, qui produit des ondes de lumière ? Les étoiles. En étudiant leur spectre lumineux, on voit qu'elles passent du rouge au bleu. Et là, ça devient vraiment intéressant.
En fait, bleu et rouge, c'est l'équivalent de aigu et grave pour du son. Vous analysez la lumière de l'étoile, et si vous voyez que cette étoile, elle est très légèrement décalée vers le bleu, puis vers le rouge, puis vers le bleu, rouge, et ça de manière périodique, ça veut encore dire qu'il y a un phénomène périodique qui est en train de modifier son mouvement.
Et l'effet Doppler que j'avais expliqué tout à l'heure, il fonctionne parce qu'un astre qui est plutôt gros peut en attirer un autre, et du coup une exoplanète dévie un petit peu l'étoile autour de laquelle elle gravite, et c'est pour ça qu'on voit une déformation de la lumière.
Et si la lumière se déforme, ça veut dire qu'il y a une exoplanète qui gravite dans le coin. Tu veux bien résumer tout ça, Astropierre ?
Lorsque la planète tourne autour de l'étoile, ça va faire bouger très légèrement l'étoile. Un peu tiré à gauche, et puis un peu tiré à droite, et puis un peu tiré à gauche, et puis un peu tiré à droite. Et ça, en fait, si l'étoile, elle bouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose à côté qui est en train de la faire bouger.
Et ce quelque chose, c'est une exoplanète. Ça a l'air de pas grand-chose dit comme ça. Mais c'est grâce à ça qu'on sait qu'elles existent. À partir de ce tout petit bout d'information, on est capable de faire bien plus. On peut calculer leur masse, leur taille ou encore leur vitesse. Mais ne nous arrêtons pas là. Après cette méthode dite radiale, il existe encore deux autres méthodes. La deuxième s'appelle la méthode de transit.
On va observer la lumière de l'étoile, et si à un moment la lumière elle va diminuer, ça veut dire qu'il y aura un objet qui sera passé devant l'étoile. Et donc on saura peut-être s'il y a une exoplanète qui tourne autour de cette étoile.
Une étoile, ça brille, il y a pas trop de raisons pour laquelle la luminosité change, hein. C'est un soleil, donc ça brille ce que ça brille. Donc du coup, la luminosité, elle est toujours la même. À chaque fois que tu fais la mesure, tu as à peu près la même luminosité. Et puis d'un coup, hop, tu t'aperçois que cette lumière, elle baisse pendant quelques temps. Et puis ça remonte. Et ensuite, on a de nouveau la même luminosité.
Comme ça. Alors, si je comprends bien, là aussi, il s'agit d'observer la lumière. Mais ce ne sont pas les variations de couleur qu'on mesure cette fois-ci. C'est l'intensité de cette luminosité. C'est-à-dire si elle est forte ou faible.
On regarde l'étoile et on s'aperçoit que de temps en temps, régulièrement, disons une fois toutes les semaines, eh ben, la luminosité de l'étoile, elle baisse pendant quelques heures et elle redevient normale. Et tous les mois, ça recommence. Si ça, ça arrive, bah, ça veut dire qu'il y a un petit corps qui passe devant. Donc on ne le voit pas, mais on voit l'effet qu'il a sur la lumière de son étoile.
C'est un peu comme observer une éclipse, finalement. Sauf que, comme on le sait, les éclipses sont assez rares. Et ça demande un alignement parfait. Ce n'est donc pas la méthode la plus efficace. En fait, la troisième méthode est peut-être la plus performante. C'est celle de l'imagerie directe.
Cette méthode, elle est simple. C'est une méthode directe. C'est observer une exoplanète avec un télescope spatial.
Là, actuellement, on dispose enfin, déjà aujourd'hui, de certains de nos meilleurs télescopes qui permettent de voir ces exoplanètes.
Un télescope aussi puissant pour voir à des années-lumière, ça doit être immense. Ils s'en donnent du mal, les scientifiques, pour observer l'univers. D'ailleurs, pourquoi se donner autant de mal ? À quoi ça sert, dans le fond, d'observer les exoplanètes ?
Moi, je dirais que c'est pour plus tard, quand on n'aura plus assez de ressources dans notre planète, comme ça on pourra immigrer dans une autre planète.
C'est peut-être pour découvrir d'autres formes de vie, d'autres formes de civilisation.
Enfin, ça aide peut-être les scientifiques à comprendre mieux et à savoir si plus tard, il y aura peut-être d'autres moyens plus faciles à vivre, en fait, pour les futurs enfants, exemple.
Comprendre comment ça fonctionne et comment la vie s'est créée aussi, une question qui se pose.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Astropierre ?
Qu'est-ce que le grand public, lui, voudrait ? Bah, c'est évidemment trouver une exoplanète qui soit petite comme la Terre, rocheuse comme la Terre, à la bonne distance de son étoile comme la Terre, avec de l'eau à la surface et peut-être de la vie qui bouge dessus. Alors, pour l'instant, on n'y arrive pas parce que c'est encore très difficile de détecter et d'étudier ces exoplanètes, mais il est probable qu'un jour ou l'autre, on vous annonce effectivement qu'on a trouvé des signes de vie sur une autre exoplanète, probablement. Évidemment, la recherche de la vie, c'est quelque chose qui est très motivant et c'est une question que tout le monde comprend.
De la vie ailleurs que sur Terre ? Mais ce serait génial ! On aurait tellement à apprendre des extraterrestres.
Attention, si un jour on détecte de la vie, ça ne veut pas forcément dire que ce sera de la vie intelligente. Si elle est intelligente, ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera technologique. Si elle est technologique, ça ne veut pas forcément dire qu'elle utilisera la même technologie que nous. Donc, effectivement, trouver de la vie, c'est une étape, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on pourra discuter avec eux comme on pourrait le faire dans les films de science-fiction. Il y a une autre chose qui est très très compliquée, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, toutes ces exoplanètes sont très 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 distantes, et même à la vitesse de la lumière, ça veut dire que nos messages mettraient entre 10 et 100 ans pour arriver jusqu'à eux. C'est-à-dire, vous envoyez une lettre, il y a 100 ans pour qu'elle arrive, et si jamais ça répond, vous attendez encore 100 ans pour que ça revienne. Autrement dit, la communication risque d'être compliquée.
Bon, apparemment, c'est pas pour tout de suite. En attendant, on peut continuer à observer. Pour résumer, il existe trois méthodes dites directes ou indirectes. Les deux premières méthodes sont indirectes, car elles consistent à observer non pas les planètes elles-mêmes, mais l'effet qu'elles ont sur leur étoile. Il y a la méthode de transit, c'est la chasse aux éclipses, et la méthode radiale, qui mesure les changements de couleur des ondes grâce à l'effet Doppler. La troisième méthode est dite « directe » parce qu'elle consiste à utiliser un télescope super puissant pour regarder directement l'exoplanète. Peut-être qu'un jour, on pourra même voir ce qu'il y a dessus. Qui sait ? À bientôt dans Diffuse ta science, le podcast des apprentis chercheurs de la ville de Bron.